La conve de Vomis en rire.
Quel bonheur de vous retrouver. C'est le deuxième épisode de la conve de Vomis en rire. La conve Vomis en rire, cette fois-ci, est dédiée à un thème qu'on va essayer d'explorer avec de nouveaux invités différents de ceux de la semaine dernière. À l'exception d'une braterie hein, qui est de retour. Mais cette semaine, on va s'intéresser au thème du travail, parce qu'on a parlé amour la semaine dernière, ça vous a beaucoup plu. Et cette semaine, on va parler de travail, parce qu'on va essayer d'échanger un peu nos idées sur cette question, parce que je pense qu'on a des profils très différents autour de la table. Et je vais vous présenter ceux qui vont passer cette petite heure avec vous, comme tous les mercredis, hein, sur la page de Vomis en rire, en plus de l'émission Amiral du week-end. On retrouve cette
Merci
semaine
de le rappeler.
L'animateur de l'émission, Lucas.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci
Hâte
de m'accueillir.
Hâte de t'entendre parler de ce sujet.
Oh oui.
Bah oui, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Et je sais que tu as un avis très tranché sur certaines questions sur ce sujet.
Do I?
En termes de...
le mec sous-produit, do I?
Notamment en termes de valorisation
ah oui, bien
du
sûr.
Talent de tout à chacun. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Deuxième personne qui refait, si vous voulez, son retour dans l'émission après une semaine exceptionnelle la semaine dernière, elle nous a fait tous pleurer, c'est Lou. Salut
oui,
Lou, ça va?
Bonsoir, ça
Merci
va très bien.
Merci d'être avec nous.
J'aime pas cette meuf.
Lou... Donc tu as 18 ans et ça va être intéressant d'entendre la vision que tu as sur le monde du travail parce qu'elle est peut-être différente de la nôtre qui sommes un poil plus âgés,
sûrement
la génération précédente, notamment les vieillards de l'équipe. On n'a que des vieillards avec nous. Non, je plaisante, on est encore un peu jeunes dans nos têtes. Caro, qui est là, qui est l'archétype de working girl, quoi. C'est la boss, quoi.
Une cotisante, comme on l'appelle.
Exactement, une girl boss. On dit girl boss, moi je pense à Caro tout de suite.
Non mais c'est vrai. The aura.
Elle va nous parler un petit peu de sa vision des choses sur ce sujet. Et puis à l'inverse, on a demandé quand même à quelqu'un qui travaille, pas spécialement en ville, on va dire, plus dans un environnement un petit peu plus calme, pas dans le privé, et avec une fourchette horaire qui correspond à peu près un tiers de ce que fait Caro, peut-être même un dixième.
L'édito de Pascal Praud, l'enfer, ça. Et on rappelle qu'il travaille moins que les Allemands.
Et oui. Et puis c'est Wissem qui dit ça.
Oui,
c'est ça
oui.
Ça,
oui, bon, on en parlera aussi. Parce que Gauthier est là ce soir,
oui,
ça va
bonjour,
Gauthier.
Très bien.
On a hâte de t'entendre parler de ce sujet, le travail. Et puis, une petite touche de, comment dire, qui nous fait toujours plaisir. On ne savait pas trop pourquoi.
Oh mais le charme.
Le charme de l'avoir avec nous, c'est Maxime.
Enchanté.
C'est sa première dans l'émission dérivée. Hein.
C'est un écrin.
Oui, c'est un écrin. Et je rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. Ici, il n'y a pas d'automatisme en termes de présence.
Hein. D'accord.
Donc, à tout moment, ça peut être votre dernière.
Et ça peut avoir des conséquences sur l'émission principale.
Oui, ça peut donner des idées à l'émission principale.
Voilà, moi, elle écoute, elle a des oreilles, elle écoute quand même.
Mais
hein.
Ce sujet, mais on va attaquer dedans, parce que comme pour l'amour la semaine dernière, je pense que le point de vue des générations est très important pour essayer d'analyser la place du travail dans notre société et surtout, quelle est la place qu'on veut lui donner dans nos vies. Caro, je ne trahis pas un secret si je dis que la place du travail dans ta vie, elle est non seulement prépondérante, mais elle guide énormément de tes décisions et de ton rythme de vie aussi.
C'est vrai.
Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as l'impression de subir ou c'est quelque chose que tu as toujours choisi?
Alors, comme dans n'importe quel job, quand tu prends du galon, entre guillemets, ça s'améliore, en fait, véritablement. Donc,
c'est vrai.
En effet, juste pour dévoiler précisément ce que je fais, c'est peut-être intéressant aussi. Moi, je travaille dans la publicité, en agence de pub, qui est un métier passion, comme chacun le sait. qui est un job, en fait, qui est un milieu où, parce que justement, on deal avec une matière un peu chouette, quoi. Enfin, c'est quand même un petit peu cool, quoi. Et on se donne souvent un peu corps et âme à ce métier. On travaille beaucoup. Voilà, c'est des horaires. Toute proportion gardée hein, par rapport aux médecins, etc. Hein, c'est pas du tout la question. Mais néanmoins, voilà, on travaille beaucoup. On peut avoir des horaires parfois très étendus. Ça peut m'arriver de faire ce qu'on appelle des charrettes. Donc,
je suis un peu charrette
ce soir. Voilà, quand on doit boucler un sujet, préparer une campagne, des choses comme ça, avant une présentation à un client. Bon, voilà, on va finir assez tard.
Qu'est-ce que t'entends par assez tard? Parce que c'est important d'avoir une idée de ce qui est la normalité
ouais,
et bah, ce qui est l'anormalité.
Historiquement, quand on devait finir... tu mets des mots sur mes mots, oui. C'est ça qui est beau.
On vous l'a dit que c'était produit, cette émission.
Non, alors il y a une époque où quand on finissait tard, ça pouvait, enfin ça tournait aux alentours de 23h, minuit, voilà. Maintenant, je m'organise mieux et j'ai plus de voilà, plus de recul en fait sur justement comment je fais pour éviter que
alors,
ça finisse tard.
C'est 23h du soir.
Oui. Maintenant, bon, ça arrive beaucoup moins souvent. Ça va être, on va dire maximum une fois par mois, une fois tous les deux mois par là, donc voilà. Et on essaie de faire en sorte que ça se reproduise pas. Et surtout, on essaye de faire en sorte de ne pas le faire subir aux générations en dessous de nous.
Ça, c'est ça qui a changé.
Ça a vraiment vraiment changé. Moi, quand je suis arrivée dans le métier, clairement, si tu voulais te faire un peu un nom, te faire bien voir. Il y avait toute cette notion de présentéisme.
C'est un syndrome français, ça.
Vraiment
c'est un vrai
nul.
Souci.
Oui, mais très nul. Et ça, heureusement, catholique. Ça a beaucoup changé avec notre génération, les millennials. Ça a beaucoup changé parce que comme on a un peu subi ce truc-là, mais qu'on est à un moment où on sait qu'on peut maintenant revendiquer des horaires décents, etc. On ne veut pas le faire subir en fait, aux générations en dessous. Donc voilà, donc on s'est un petit peu organisé différemment. Aujourd'hui, j'avoue que voilà, ça se reproduit quasiment plus.
D'accord.
Mais oui, ça guide forcément ta vie. Puisque,
mais c'est intéressant parce qu'on a une première incartade sur la génération.
Ouais.
Parce que toi-même, tu dis que tu ne veux pas faire ces erreurs, reproduire ces erreurs avec la plus jeune génération. Est-ce que toi, Lou, si demain on te dit... T'as un super poste dans la com ou dans le marketing, 9h-23h quand c'est charrette. Est-ce que toi, tu te sens d'y aller, très honnêtement, ou est-ce que pour toi, c'est, comme dirait l'autre, no way?
Bah évidemment, quand on te dit tu dois bosser de 9h à 23h, ça fait chier, quoi, c'est sûr. Mais après, je pense que si tu fais un travail que t'aimes, etc., que t'es vraiment à fond dedans, genre, moi, je sais que...
Là... How fucking much? C'est ça la question, mais pardon. Mais
là, je fais mon stage en ce moment, le matin, je me lève, je suis contente d'y aller. Quoi.
Oui, bah oui.
Bon, le soir, des fois, je rentre crevée, même si je rentre pas tard, mais je suis contente d'y aller. Quand je suis là-bas, j'aime bien faire ce que je fais. Donc après, je pense que ouais, les horaires, ça se joue aussi en fonction de si t'aimes ou si t'aimes pas, quoi. Ça joue ouais. Énormément.
D'accord. Et la place du travail comme le discutait Caroline, c'est-à-dire avec des responsabilités et donc des conséquences qui pourraient être négatives, c'est pas quelque chose qui va rentrer dans ta prise de considération quand tu vas choisir ton poste ou, parce que je sais qu'il y a une jeune génération qui justement préfère avoir moins d'argent,
ouais.
Moins de responsabilités. Mais plus de temps, par exemple.
Bien sûr. Mais ça va être un vrai sujet économique, ça.
Parce qu'on
a 20% des agents économiques aujourd'hui, grosso merdo les jeunes, qui assument de préférer faire 32 heures pour moins d'argent. Mais je dis, enfin, c'est un sujet de société. C'est qu'on a une génération qui, c'est pas qu'elle veut pas travailler, c'est qu'elle a décidé de ne pas donner au travail une place qu'elle a eue dans la société occidentale depuis à peu près 5000 ans.
Et parce que avant, le travail permettait de s'épanouir, permettait d'acheter une maison, permettait
par la consommation
de mieux vivre. Alors
plus,
que là, maintenant, non.
Aujourd'hui,
là,
t'as plus de perspective. En fait,
là,
très
ça.
Peu. Et donc, c'est intéressant sur la question. Tu poses la question de la responsabilité.
Ouais.
Elle est intéressante cette question parce que tu m'aurais posé la question il y a encore 5 ans de alors où est-ce que tu te vois dans 5 ans.
Tu te voyais dans Vaut mieux rire. Toi, raconte un peu.
Ah mon plan de carrière est construit autour de Vaut mieux rire.
C'est ça le problème.
oui. Mais non, c'est vrai qu'il y a 5 ans, je m'imaginais que j'aurais un poste à responsabilité, qu'il n'y avait que ça qui comptait.
Est-ce que c'était l'argent?
L'argent, évidemment, entre en ligne de compte. Après, la réalité, c'est que moi, je travaille dans la pub, hein, donc c'est pas exactement le secteur qui paye le mieux. Hein, donc ça, je le savais en entrant dans le secteur.
Mais tu vois, il y a quand même des fantasmes autour de ces métiers.
Ouais.
Moi, c'est pareil, dès que tu dis que tu bosses en télé ou en machin, tout de suite, les gens croient qu'on est bien payé.
Mais oui.
Mais c'est pas. Les gens ont des trucs en tête qui sont délirants.
Oui,
quoi.
Oui, mais en fait, parce qu'ils ont des images des animateurs, enfin des
bien
personnalités.
Sûr, c'est normal, bien
en
sûr.
Fait, qui, elle, évidemment.
Mais comme les chefs
brasse.
D'entreprise, tu vois que Pouyanné, alors que la plupart des mecs gagnent même pas de salaire, quoi. Donc,
bien sûr. Bien sûr. Non, mais la question.
Bien payé par rapport à Paris.
Non, pas du tout.
Moi, oui. Moi, ça y est, ça commence. Mais parce que j'ai de la... Mais, en fait, on ne peut pas comparer.
Oui.
Sur ces métiers-là, je n'ai pas la même valeur que quelqu'un. Il y a des gens qui sont plus chers que moi au même niveau.
Oui.
C'est compliqué de jauger. Vous avez des grilles, entre guillemets. Tu as une année d'ancienneté, pas d'erreur dans ta carrière. Bon,
ça,
tu montes naturellement. Mais...
C'est intéressant parce qu'on parlait de métiers qui évoluent très vite, qui parfois, à un moment donné, avaient beaucoup d'argent. Parce qu'on sait que la com, c'est là où on cut en premier, en fait.
Bien
parce
sûr.
Qu'à un moment donné, quand tu n'as pas de thunes, il faut cut quelque part, tu cuts dans ta campagne, etc. Donc tu peux très vite voir des budgets fondre.
Complètement.
Et là, le problème, c'est que la rémunération, très vite, ça descend en flèche. À l'inverse, des métiers comme le tien, Gauthier, il y a une certaine stabilité depuis 50 ans. Parce que
la fonction publique.
Parce que la fonction publique, et en l'occurrence, le métier que tu exerces,
dans l'éducation nationale. Ça, il y a les fameuses grilles, il y a les échelons, il y a le hors classe.
Il y a limite trop de grilles.
Et en fait, c'est quelque
ça
chose.
Manque de, non, ça manque de clarté et surtout, non, mais... ça ne récompense pas le bon travail.
Ah, mais moi, je pense que ça récompense le bon travail. Non. Surtout dans l'éducation nationale. Ah, si. T'as quand même des. Je pense.
Maintenant, oui.
Non, je pense que franchement. Quand t'es formateur, quand tu fais des choses à côté, quand tu t'occupes de l'informatique, etc., il y a des vrais leviers de récompense de ce que tu fais.
Après,
comme
le problème, si on parle vraiment argent, c'est que c'est plus du salaire, c'est des primes. Donc ça compte, oui, pas dans la retraite.
C'est comme la prime d'activité.
Oui.
C'est du faux salaire.
Non, et puis non, franchement, dans le public, si t'es méritant, t'es plus méritant qu'un gars qui est arrivé 2 ans avant toi. Eh ben, on va te dire, bah non, lui, il est arrivé avant. Et c'est comme
ça.
Et...
pas partout.
Mais je sais qu'à la SNCF, ça fonctionne comme ça, par exemple. Tu vois.
Pareil, dans les mutations à l'éducation nationale, il y a l'ancienneté qui joue.
Oui.
C'est-à-dire que moi, si je suis pas ancien, je suis célibataire, pas d'enfant, je vais passer derrière tout le monde.
Oui.
Donc je peux pas forcément faire mes mutations.
Tu veux qu'on se pague, Gauthier?
Non, mais il y en a beaucoup dans l'éducation nationale qui se paquent, qui font des faux pas.
Mais c'est un vrai sujet.
Ça, c'est un sujet important. Et justement, comme on a tous un peu le même profil de jeunes actifs. Sans enfant, sans être marié, etc. On va peut-être se poser la question.
Pourquoi t'as pas d'enfant, toi, Michel?
Parce que si tu veux, je peux pas arguer. À qui je vais arguer cet argument? S'il te plaît, donne-moi des congés. À qui je dis ça? Bon.
Mais tu vas le découvrir, hein, bientôt. Ouais, hein, tu vas voir.
Inch'Allah. Bientôt. Dans quelques instants, on revient pour justement discuter de cette question. Est-ce qu'à un moment donné, vous trouvez qu'il y a une injustice? Il y a une injustice dans la manière dont notre génération est traitée par rapport à la génération précédente ou encore celle d'avant qui sont dans nos entreprises et qui parfois nous donnent un petit peu des sueurs froides. Donc c'est le sujet qu'on aborde juste après ça. Vous êtes dans la conve de Vaut mieux en rire qui est dédiée cette semaine au travail. Work, 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 comme disait Riri. Work, 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 work. It's me, I be work, 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 work. It's me, do me, da, 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 da. It's me, but I work, 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 work. When you walk along. To have you lurking, you make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, all my sleep, a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Never seen something that you never been. De retour dans la conve de Vaut mieux en rire où on discute travail cette semaine avec nos invités Lucas, Maxime, Gauthier, Caro et Lou qui étaient là la semaine dernière. On parlait juste avant de l'urticaire que nous filent peut-être parfois les anciennes générations. Est-ce que franchement, honnêtement, vous le ressentez de temps en temps ou vous vous dites, mais il y en a marre? Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'enfant? Est-ce que c'est parce que je suis pas casé que je peux pas avoir mes vacances scolaires? Ou est-ce que je peux pas avoir mes mercredis en télétravail si je veux le faire?
Moi, je suis dans le truc inverse, je suis content d'avoir une vie décalée par rapport aux autres. Mais je suis premier à demander des vacances décalées.
Jamais c'est arrivé en décalé ou ça t'a fait chier ou des choses comme ça.
Sincèrement, c'est la chance quand t'es entre guillemets célibataire et
sans
enfant.
Quand t'es pas prioritaire, quoi.
Non, mais c'est limite, c'est un vrai avantage dans la gestion du travail, c'est qu'en gros, tu pars toujours à des moments où il y a personne en vacances, ce qui est quand même plutôt pas mal.
Ouais.
En vrai, et tout le monde n'a pas, et de moins en moins de gens ont d'enfants, donc le problème va de moins en moins se poser sur le travail, sur les congés en vrai. Parce qu'en gros, il y aura les parents qui auront la priorité, ouais, mais ils seront pas, il restera des congés à poser.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y en a certains?
Moi, je les choisis pas mes congés en fait, du coup.
Bah, oui.
Bah c'est vrai, c'est-à-dire que mes congés ils sont imposés.
Ah bien sûr, t'as 6 mois par an quand même. Non,
et tu l'as amené tout seul, hein, la
oui,
question
non,
des
non,
congés.
Parce que je choisis pas mes congés, je paye plus cher parce que c'est les vacances scolaires.
Oui, bah, c'est ça, sûr, c'est un vrai sujet.
Un truc tout bête, quand j'ai gagné ma thalasso à tout le monde à son mot à dire, bah, faut que je parte hors vacances scolaires.
Ah oui.
Donc,
ah
je
oui,
dois
oui,
appeler le service client pour dire bah oui, je suis prof, vous pouvez pas faire un effort, ceci, cela, c'est des trucs tout bêtes.
Bah oui, non, mais t'as raison.
Et est-ce que tu préférerais avoir moins de vacances et avoir le choix dans la date, si je puis dire, ou rester comme ça?
Je sais pas.
Non, faut pas pousser non plus, quoi.
Non, après, on va pas se mentir.
Faut pas pousser, on aime bien quand même 3 mois de vacances, quoi.
Quand t'as 6 semaines l'été, t'es bien content de
ouais.
les voir.
Ah bah ouais, bah ça, je pense qu'on en rêve tous. Hein. Ça, pour le coup, si,
Caro,
je, si je pouvais signer.
Ça t'est arrivé ou pas d'être saoulé un peu par des comportements, peut-être pas les congés, mais des comportements de la génération précédente à ton égard?
Je pense avoir la chance d'être dans un secteur qui essaie d'être un tout petit peu avant-gardiste sur ce genre de questions. Ouais. Voilà, parce que je pense qu'on se gargarise un tout petit peu d'être des cools, tu ouais. sais, dans la pub. Donc. Il faut aussi que ça suive sur ce genre de questions.
Mais est-ce que vous y croyez à ça?
Mais est-ce que, excuse-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont vraiment ont des situations de famille ou, parce ouais. que moi, dans mon taf, il y a vraiment des gens, on est quasiment tous pareils, en fait.
Ah ouais, ouais.
Alors, bah, pour le coup, j'ai changé d'agence. La précédente agence dans laquelle j'étais, globalement, alors il y a beaucoup de jeunisme. Ça, c'est une vérité.
Ouais. Comment oui. ça?
Bah, beaucoup de gens très jeunes.
Ah oui, d'accord. Une moyenne parce que c'est de la chair à canon pas cher.
Oui, bah,
c'est une
exactement.
Raison économique.
Bah, c'est les seuls, si tu veux, qui sont prêts à accepter le voilà. type de salaire oui. qu'on leur propose. Après, évidemment, il y a énormément de turnover. Les gens restent pas forcément très très longtemps. Dans l'agence dans laquelle je suis désormais, ça, c'est très différent. Il y a beaucoup beaucoup de gens un petit peu plus âgés, dans la génération un petit peu au-dessus, genre génération X, donc qui ont une quarantaine d'années, qui ont déjà des enfants, ouais. voire qui sont mariés, etc. Et comme pour le coup, on est nous dans une agence qui est, enfin, je trouve respectueuse, si tu veux, des rythmes de vie. Que les gens rentrent plus tôt parce qu'il faut aller chercher les enfants, qu'ils puissent pas venir tôt le matin parce qu'il faut aller emmener les enfants à l'école.
Puis c'est une preuve de confiance vis-à-vis de tes salariés.
Bah exactement. En fait, il y a un truc de le télétravail. Bon bah c'est fait notamment pour que les gens puissent s'organiser. C'est une avancée, la question du télétravail. Maintenant, par exemple, le groupe dans lequel je travaille est en train de revenir un petit peu sur attention au télétravail. Ouais. Parfois c'est une baisse de productivité, etc., etc. Ce qui est pas vrai. Hein.
Tout prouve que c'est pas vrai.
Ça n'est pas démontré. Donc voilà. Donc il y a évidemment, on le sait, certains grands patrons qui, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir fliquer, je le sais, dans certaines autres boîtes, hein, ils ont peur de ne pas pouvoir, au fond, fliquer leurs employés, reviennent sur cette avancée sociale, qui est pour moi une avancée sociale du télétravail. Mais
voilà. Ça va devenir un argument pour les boîtes maintenant.
Mais c'est un argument.
Dans un marché où celui à la recherche d'un emploi, enfin, on faut faire gaffe, parce que demande de travail, offre de travail, c'est inversé oui. en fait, dans le langage économique. Bon, bref. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les salariés sont en position de force, en vrai.
Mais
dans la plupart des métiers du tertiaire, bon, pas sur les gros postes créatifs, je veux dire, mais sur des métiers à peu près basiques du tertiaire, aujourd'hui, c'est le salarié qui a le pouvoir et qui dit, écoutez, c'est bien simple. S'il n'y a pas télétravail, ben, vous prenez quelqu'un d'autre.
Bah, en tout cas, dans la génération de Lou, c'est devenu un mandatory, ce genre
ouais,
de choses.
Oui, bien
chose.
Sûr.
Enfin, vraiment. C'est-à-dire que ça fait partie des prétendances.
Jamais de ça,
jamais de la vie. Enfin, déjà,
jamais.
Quand ça nous est tombé dessus, c'est grâce au Covid, on va pas se mentir.
Oui, bien sûr.
Hein.
Ouais.
C'est vrai. Que grâce au Covid. Il n'y aurait pas eu le Covid, je pense qu'on n'en serait toujours pas là.
Bien sûr.
Sincèrement. Et pour moi, maintenant, c'est devenu un prérequis. Mais c'est vrai que ça ne rentrait même pas une minute dans mon logiciel jusqu'à il y a 4 ans.
C'est très intéressant et ça montre à quel point c'est allé très vite ces dernières années, notamment la prise de distance par rapport à plein de choses qui se passaient dans le monde du travail. Évidemment, la place de la femme dans le monde du travail hein, qui a été quand même pendant très longtemps difficile. Des nouveaux process qui ont été mis en place avec des personnes qui sont quasiment dédiées aussi à ce bonheur en entreprise. Alors, on se moque un peu du happiness manager, des nouvelles chartes qui ont été mises en place.
Il y a l'index égalité femmes-hommes.
Exactement, oui. Mais je pense que c'est devenu aussi un réflexe d'aller voir quel est l'impact sociétal de l'entreprise.
Est-ce
dans
que c'est...
Tu
bah ouais, mais la question, c'est... Moi, je fais partie de ces gens qui ne vont pas taffer en me disant « Mais qu'apporte ma boîte au monde ?» Enfin, moi, j'ai un rapport très protestant au travail,
oui.
mais on bosse qu'on est alsacien, je pense, tu vois, on a un truc très cartésien. Mais c'est vrai,
non, mais
en France, on est persuadé que, alors qu'on est un pays foncièrement anti-entreprise, on n'aime pas l'entreprise en France, c'est pas dans notre ADN, parce qu'on est catholique et français et royaliste, et il y a quand même un relationnel, on demande à des boîtes de gérer la société, de faire progresser. Oui, sur certaines boîtes médiatiques, d'accord, TF1 a peut-être un rôle un peu social de faire avancer les choses. Est-ce que c'est le rôle de Danone ou de Lactalis qui embauche 200 000 personnes autour du monde de changer le monde? Je pense pas que les salariés veulent ça. Ils veulent juste un bon salaire, le RSE après. Sincèrement, les gens s'en battent les couilles. Hein.
Moi, je suis pas sûr.
Sauf, oui, les bobos en ville qui bossent en com et qui disent « Ah oui, ma boîte, elle paie pas d'impôts sur l'écologie. » D'accord.
Oui, non,
mais ça, c'est les problèmes de bobos. Quoi. Tu vois, quand tu bosses à Auchan Bouillac...
Il y a un biais de compréhension de ce truc-là. Parce que souvent, c'est vrai qu'on lit les choses à l'aune de ce qu'est une génération. Une génération, ça veut rien dire, au fond.
J'sais
ça veut
pas. Pas.
Non, mais ça veut pas dire grand-chose. Il y a pas mal d'études qui reviennent un petit peu là-dessus, justement, parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, on parle de la génération Z en disant, voilà, c'est une génération plus engagée, plus machin, etc. En fait, on se rend compte que c'est la génération qui consomme le plus sur Chine.
Elle prend l'avion.
Elle prend l'avion énormément.
Ah bah, Lou, sur le Chine, je t'ai fait chier avec ça. Hein. Parce que les grands tweets, les grands Instagram pour aller acheter sur Chine le lendemain, vraiment.
Voilà, donc en fait, on se rend compte que c'est une génération qui est peut-être plus pétrie de contradictions.
Ouais.
Parce qu'elle est tiraillée entre, en effet, la conscience peut-être plus que nous, notre génération, quand on était plus jeune.
Relire Vanessa de Secret Story. Hein.
Contradiction.
C'est Emily, pardon. Eratom,
corrige le synthé.
La régie me précise, on a une dépêche AFP. Il s'agit d'Emily de Secret Story, pardon.
En fait, voilà, il y a plus de contradictions. Néanmoins, personne ne va se mentir ici. Ce qui compte, c'est quand même à la fin ce que tu as sur ta fiche de paie et comment tu arrives à bouffer. Enfin, voilà,
et tous ces sujets ont éludé culturellement la question du salaire en France, qui est le sujet majeur depuis 30 ans.
Mais qui le restera toujours. En fait, tant qu'on n'arrivera pas à se loger facilement, à fonder une famille facilement, à pouvoir pouvoir aux besoins de ta famille, en fait, la question du sens, qui est une question légitime par ailleurs, elle passera au second plan, toujours, en fait. C'est une question légitime, néanmoins, elle reste encore, parce qu'on est dans un monde compliqué, une question secondaire.
C'est intéressant. Je me demande quelle est la place vraiment de cette question à l'horizon 10-15 ans. Est-ce que la dégradation des conditions de tout le monde ne va pas faire disparaître cette question aussi?
Peut-être.
Quelle dégradation de quoi?
Mais le fait que, de toute façon, la classe moyenne disparaisse, c'est qu'il y a de moins en moins de
gens. Elle n'a pas disparu. Nous sommes tous devenus une énorme classe moyenne. C'est ça le problème.
Oui, mais tu accèdes plus facilement. À notre âge, normalement, on devrait déjà être tous propriétaires, plus ou moins. Enfin, voilà. Et on n'y est pas. On n'y est pas du tout.
Oui, après, je suis le premier, les boomers, je suis le premier à dire qu'il faut supprimer et baisser les retraites, etc.
Oui.
C'est pas comparable. Enfin, il y a quand même, faut pas oublier. Oui, alors, il n'y a pas de croissance, il y a du travail déjà. Pardon, je tiens quand même à dire, on est quand même, ça faisait quand même 35 ans qu'on nous bassinait sur le plein emploi. Que personne n'arrivait à... Le chômage n'est plus vraiment un sujet aujourd'hui.
Bah quand même.
En tout cas, le chômage de masse. Il y a encore des poches d'emploi. Avant, il n'y avait même pas d'emploi, je veux dire.
Non, mais pas parce que ça n'existe pas. C'est parce qu'on a créé des emplois où les gens sont comme en Allemagne.
Oui, alors faut arrêter, évidemment. Le taux de pauvreté, même en Allemagne, ils ne sont pas plus malheureux que nous, les Allemands. Et eux, au moins, ils ont de l'argent.
Tellement ça, c'est qu'en fait, les gens ont beaucoup plus accès à l'enseignement supérieur. Donc, les gens sont désormais beaucoup plus diplômés. Oui, ou en tout cas, ou fictivement. Oui,
génération surdiplômée.
Voilà. Et donc, à partir du moment où, évidemment, tu peux revendiquer un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5, c'est normal que t'aies des prétentions entre guillemets
mais sur des métiers techniques, c'est normal. Maxime, il a des vraies compétences techniques. Tous ces métiers du tertiaire ne demandent avant tout du talent et de la chance, parce qu'il n'y a pas des postes pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de temps d'assistant de com, pardon. Hein.
Entre ce qu'on te promet par exemple en école, ce qu'on te fait miroiter entre guillemets, et ce que tu as réellement quand tu commences un poste, là aussi, enfin, dès le début, dès les écoles, il y a un problème. Enfin, je veux dire, limite, on te ment pour.
Oui, toi t'as fait une école d'ingé. Oui. Moi j'ai fait une école de commerce, c'est à peu près la même situation. On te fait miroiter au moment où tu entres, souvent quand tu commences à faire ton marché, tu vois, entre quelle école je vais tenter. On te fait miroiter le salaire à la sortie et le salaire à 5 ans ou à 3 ans.
Ouais, un truc comme ça.
Qui en fait est évidemment une moyenne entre les gars, enfin pour ceux qui ont fait du commerce comme moi, les gars qui bossent en M&A, en conseil, etc., qui brassent allègrement, et puis tout le reste en fait, parce que c'est les deux seuls secteurs qui payent et il y a tout le reste. Et donc en fait, Ce tout le reste fait vraiment baisser la moyenne du salaire. Et in fine, tout le monde est très déçu. Tout le monde est très déçu. Et en effet, tu as raison, il y a une forme de grand mensonge quelque part.
Revenir à la médiane.
Tu as raison, tu as complètement raison.
Mais oui.
Il faudrait revenir à la médiane et pas
à
la moyenne.
Mais quand même, quand on donne les salaires en France, il ne faut pas donner la valeur moyenne.
Ouais.
Il faut donner la valeur médiane. Et elle est pathétique si on se compare aux autres.
Bien sûr.
C'est pas normal que la moitié des Français gagnent moins de 1800 euros. Enfin, je veux dire, moi, ça me rend taré. Mais c'est marrant, ces genres de sujets. C'est comme le logement. Hein.
Ouais.
C'est en filigrane depuis 20 ans. Personne ne dit les termes. Quoi. Mm. Personne ne dit les salaires sont trop bas. Point. À cause de quoi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas normal aujourd'hui, même au SMIC, de gagner 1500 euros.
Bien sûr.
Quand tu es la France, je veux dire. Hein.
Si tu pouvais vivre avec 1500 euros.
C'est bien ce que je dis.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une forme de déclassement par rapport à nos parents.
Parce que les salaires n'ont pas tant baissé que ça dans l'absolu.
Non,
c'est le pouvoir d'achat qui a baissé.
Et ça nous amène à notre sujet suivant. Et on va se retrouver dans un instant pour en discuter. Parce que vous nous faites la transition parfaite vers les conséquences du travail aujourd'hui. Et quelle est sa place vraiment intrinsèquement chez les gens. Et est-ce que c'est devenu une espèce de nécessité nourricière ou est-ce que c'est devenu ça reste un épanouissement?
Est-ce que le travail existera encore dans 50 ans?
Ou est-ce que oui,
non, parce qu'en fait, il y a aussi cette question-là quand même.
Bah oui,
est-ce que c'est pas la fin du travail au sens humain du terme?
On vit dans Wall-E.
Ouais. Non, mais c'est pardon.
Et on passe dans la période un peu SF du podcast. qualification du podcast SF.
Ouais, le mot moi, j'aime SF. Bien les meufs un peu elfes. Tu peux mettre des elfes, c'est
un peu. On se retrouve dans un instant pour parler de la place du travail dans nos vies et la vie des Français en général. Et on n'a pas des bonnes nouvelles, hein, on vous avoue. Tout de suite.
On aime le naturel, mais on met tout du maquillage. On aime la bonne musique et pourtant on la télécharge. On voudrait tous être écolo, mais on aime rouler en humeur. On rêve de connaître l'amour sans avoir de peine de cœur. On n'aime pas les paparazzi, mais on lit leurs magazines. On veut tout garder la ligne, mais sans jamais faire de régime. Beaucoup critiquent la politique, mais oublient d'aller voter. Ils rêvent tous de nous baiser.
De retour dans la conve Vaut mieux en rire qui est dédiée cette semaine au travail.
On fait notre travail.
C'est un sujet qui est... c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, c'est un peu complexe. On essaie d'être posé, d'en discuter de manière un peu sérieuse. Mais on est tombé un peu tous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, le travail ne paye pas assez et que c'est devenu très difficile de gagner ne serait-ce que le SMIC quand on voit la flambée des prix, le logement, etc. Mais Lucas, tu avais peut-être une nuance à apporter. Je vois que tu lèves la main.
Non, mais sur le travail, j'ai plein de choses à dire. Il y a un tabou en France sur les 35 heures, par exemple. C'est des sujets très techniques, mais en fait, c'est le sujet.
Plus personne ne les fait.
Le marché de l'emploi. Non, mais c'est justement. Or, le système encore en vigueur, c'est les 35 heures. Oui, c'est une aberration économique. Bon, même le SMIC, moi, je suis contre.
Non, mais c'est pas, c'est pas prouvé, ça. Hein.
Est-ce que tu préfères.
C'est pas du tout prouvé que ça. Au contraire, à partir du moment où.
Ça crée des emplois, mais pas qualifiés. Le travail ne se divise pas. Bah après, moi, je suis libéral, je suis de droite économique. Le travail ne se divise pas. Non, mais c'est pas parce que. Mais là, tout le prouve. Je veux dire, il n'y a aucun pays communiste qui a marché. Je veux dire. Et les 35 heures, et même des économistes de gauche le disent, hein, même Thomas Porcher le dit. En fait, ça crée une espèce de trappe à bas salaire qui fait qu'aujourd'hui, grosso merdo, 15% des Français sont coincés à 1400 euros. Et surtout, ils seront coincés à 1400 euros toute leur vie. C'est ça le sujet. C'est ça qui crée la colère. Les gilets jaunes, les machins, c'est que ça.
Mais c'est pas les 35 heures le problème. C'est le fait qu'on n'ait pas dit on augmente le SMIC.
Ah, mais moi je pense que la solution est très simple. C'est on arrête les 35 heures.
Mais en fait, je comprends pas en quoi les 35 heures répondent à la question de
on a cru que diviser le travail donnerait du travail à tout le monde.
D'accord.
Or aujourd'hui, on se retrouve avec tout le monde qui a des petits travaux, qui sont payés 1300 euros. Alors qu'on devrait grosso merdo avoir tout autant d'emplois, mais payé 2100.
Ça te coûte plus cher.
Mais pas à 35 heures.
Ça veut dire que
à 45.
Un employé à 35 heures ne fera pas le même boulot que deux employés à 20 et 15 heures.
D'accord, mais ça, c'est leur problème. Mais ça, c'est leur problème. Absolument.
Et même, ça te coûtera plus cher d'employer deux personnes à 20 heures qu'une personne à 40. Le système est fait que, avec toutes tes cotisations, tes machins, tes trucs.
C'est ça, c'est ça.
Cause, je pense que c'est une.
Non, il faut dire aux gens, vous serez payé 300 euros de plus. Ouais. Par contre, vous ferez 42 heures. Déclarez 42.
Non, mais
c'est ça qu'il faut faire, c'est tout.
Mais déjà, si...
En fait, déclarer normalement des heures.
Mais de toute façon, les 35 heures, c'est fini déjà aujourd'hui.
C'est bien ce que je dis, mais c'est dans les faits,
parce que
aujourd'hui,
on ne paye plus les heures supplémentaires comme on les payait avant. On ne les paye plus depuis les lois travail d'il y a quelques années. On ne paye plus les heures supplémentaires
au-dessus
comme elles étaient avant.
Au-dessus de 39,
au-dessus
oui.
De 42, tu payes.
Oui, c'est ça.
Au-dessus de 42, tu payes comme
pardon,
c'était avant.
42 heures de travail, c'est pas énorme. Mais les autres pays font quoi, les enfants?
T'as plus de vie derrière.
Non, mais tu soulèves. Non, mais attends.
8h-17h, ça va.
Je t'en prie. Enfin, moi, les 35 heures, je les ai jamais faites de toute ma vie. J'arrive quand même à peu près à avoir une vie. Enfin, tu vois, ça va.
Mais je dis ça parce que.
Mais je veux pas imposer.
Non, mais je suis pas caissière, tu vois, je fais pas un boulot dur.
C'est pas la question, c'est pas ça. C'est que tu soulèves un truc qui est assez juste. C'est qu'en fait, on est dans une. Globalement, une économie du temps passé, en fait, quelque part. En tout cas, moi, dans mon métier, je vends du temps passé. Et comme.
Ton cerveau disponible.
T'as raison sur un truc, c'est que. Avec l'évolution des technologies, l'IA, machin, enfin, le point IA est atteint, mais c'est vrai, la question de l'IA remet en cause l'intégralité du système au temps passé.
Ouais. Et tant mieux! Et tant mieux!
Bah oui, oui, mais donc ça veut
non,
dire
mais
que.
Quand le train est arrivé, on s'est pas posé la question si les calèches allaient disparaître. Tant mieux!
Non mais
tu vois ce que je veux dire?
Bah non, parce que non mais en fait c'est sûr que le progrès est amené à faire gagner du temps à tout le temps, etc. Sauf qu'à partir du moment où toi, pour te faire rémunérer, tu vends du temps passé. Ouais. Bah là tu te retrouves emmerdé parce absolument. Que bah t'as gagné ouais. du temps dans ton temps de travail et ben bah, comment je fais pour justifier si tu veux
et puis surtout,
le salaire que j'ai
pour l'employeur, non, ouais. c'est, voilà. c'est surtout que cet argument de la calèche et du train il est très utilisé par les libéraux. Alors c'est l'argument oui. massu, sauf qu'à l'époque quand la calèche est remplacée par le train, le bénéfice il est réparti.
Oui oui,
ah c'est vrai, bien sûr,
le bénéfice il
en
est
quoi
réparti.
Il est pas réparti aujourd'hui.
Mais on peut t'expliquer en quoi la disparition des caisses au supermarché n'est pas allée dans la poche des autres caissières, mais dans la poche des
d'accord,
actionnaires
mais
de Leclerc.
Est-ce que je veux dire, si va être horrible, oui, Seb. Mais ces nanas-là, ça très bien que dans 5 ans, elles n'existeront plus de toute
d'accord,
façon.
D'accord, mais sauf que cet argument-là.
On peut leur faire
cet
croire.
Cet argument-là, tu ne peux le faire fonctionner que si tu le contextualises dans un système économique qui, à l'époque, était redistributif.
Bien sûr.
Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, oui. l'argent qui disparaît parce que. Évidemment, on a eu des facilités technologiques, n'est pas réparti mm-hmm. entre ceux qui restent.
Ouais,
il disparaît dans des sphères dont personne n'a la main, mm. ni l'État, ni l'employé. Mm. Ce n'est pas vrai de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas. Mais non, mais ça non plus, ça fonctionne pas. On le sait. On ne peut pas dire aujourd'hui que le remplacement de la calèche par le train, c'est comme si la caissière était remplacée par une caisse automatique, parce que ce gain-là n'est pas récupéré par la caissière. Il est récupéré.
Mais pourquoi
uniquement
le récupérer
par l'actionnaire.
Non, il fait juste disparaître. Son emploi qui n'a plus lieu d'être.
Oui,
et cette dame-là trouvera un autre emploi différent.
Mais donc c'est en ça qu'il faut qu'on s'interroge sur le fait qu'on autorise ce genre de choses.
Ah mais c'est oui, certains des conséquences sur l'emploi, sur la société, bien sûr. Mais
oui,
on
mais
le sait que ça va.
Sur le dérèglement économique, puisque encore une fois, il y a une accumulation.
L'homme, il s'occupe toujours. Dans toute l'histoire de l'économie, peu importe les révolutions, parce qu'on aurait pu dire pareil avec le charbon, même l'électricité à l'époque.
Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas, encore une fois, la concentration et
oui,
le fait qu'on, mais oui, le fait qu'il y a un enrichissement. D'un seul endroit. C'est en ça que l'économie mondialisée change et qu'on ne peut pas comparer avec des évolutions comme le train ou comme l'imprimerie. C'est très différent.
Mais en fait, il y a un truc que je trouve intéressant, au fond, dans le nouveau paradigme vers lequel on s'oriente, c'est que tu vas avoir une disparition des métiers peu qualifiés. Bon, ça, c'est à peu près clair. Hein.
Mais tant mieux.
Non, mais attends. Non,
bah, sur nous.
Alors, oui et non. Oui et non. Oui, sur le papier. Mais pourquoi non, en fait? Parce que derrière, vont devoir se réorienter, si tu veux, tous ces gens vers des métiers qualifié quelque part, sauf que comment tu fais pour apprendre à te qualifier si tu n'en passes pas, si tu veux, je parle dans le tertiaire par exemple, hein. Moi, à un niveau senior auquel je suis, j'ai dû en passer par charbonner un petit peu, enfin tu vois, me farcir des recherches, des trucs, etc. Si demain tout ça est automatisé, moi qui suis déjà senior, c'est pas grave, tant mieux, ça me permet de continuer à thrive, si tu veux, dans le milieu du travail. En revanche, un junior qui se lance dans ce milieu et qui a besoin, pour devenir bon senior, d'en passer par un peu de charbon, etc. Si tout ça est automatisé demain, comment fait-on pour faire en sorte, pour former ces gens pour qu'ils deviennent bons et meilleurs? Et en fait, in fine, je pense que ça nous oriente, hein, à long terme, hein, très long terme, hein, mais à long terme quand même, ça nous oriente vers un appauvrissement, si tu veux, de la capacité intellectuelle, dans le tertiaire, je parle juste du tertiaire.
Mais oui.
Un appauvrissement de la capacité intellectuelle, même des métiers seniors, enfin même des postes seniors.
Mais on le voit déjà, on le voit déjà.
Mais oui, mais c'est une catastrophe. Parce que ça, sur le papier, pour nous, là, en fait, on réfléchit à très court terme. Pour nous, oui, c'est super. Là, moi, ça m'arrange. Moi, je peux automatiser un maximum de trucs. Top. Pour moi, c'est super. Et franchement, j'en ai pas pour 60 ans de carrière encore devant moi, donc c'est pas grave. Mais le problème, c'est que gouverner, c'est prévoir. Et je crois qu'on ne prévoit rien. Moi, c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. Là, on ne prévoit rien sur ce truc-là. Et je pense qu'on court à une catastrophe avec, dans les secteurs, disons, secondaires et primaires, automatisation, disparition des métiers peu qualifiés. Et aucune requalification de ces gens-là.
L'homme a toujours trouvé de quoi s'occuper.
Oui, mais d'accord. Mais
on va trouver, je veux dire. C'est pas un adage qu'on... Oui.
Le problème, c'est que ces gens-là, s'ils veulent se requalifier, entre guillemets, il faut qu'ils deviennent ingénieurs parce que demain, il faut aller, faut qu'ils soient data analystes, machin, etc. Tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est la vie. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Bon, c'est un problème pour ces gens-là. Et ensuite, même dans le tertiaire, c'est délétère. Même dans le tertiaire. Et ça, j'ai l'impression que personne ne le voit. Moi, ça m'inquiète énormément. Ça, c'est
je comprends cet argument de dire l'homme survivra à tout. Mais et je pense qu'en France, les gens ne demandent pas à gagner tous 3000 euros par mois.
Mais non.
Ils ne demandent pas à gagner tous 5000 euros par mois. Non. Écoute, les agriculteurs, il y a un mois et demi, quand ils ont manifesté, ils n'ont pas demandé à gagner 5000 balles. Hein.
D'accord.
Ils n'ont même pas demandé à avoir des versements de l'État, à être aidés. C'est pas ça.
Non, ils veulent voir. Ils veulent
de la décence,
ils veulent qu'on arrête ce système fou. ils veulent qu'on arrête que quand ils vendent leur litre de lait, ça soit 10 fois moins cher que quand leurs parents le faisaient.
Parce mais ça c'est leur problème une fois de plus. Enfin, moi je vois...
Non, mais à un moment donné, il y a
c'est pas une question de salaire d'ailleurs, c'est une question d'exploitation et de commerce.
Non mais toi qui es le profondeur du libéralisme et du fait que tout fonctionne très bien selon le principe de la main invisible, il y a un problème énorme parce que l'agriculteur mis en concurrence lui-même ne peut plus se venir.
Alors, tous
à ses
les agriculteurs sont pas malheureux. Il faut arrêter avec ça aussi. Ah oui, hein. Non mais il faut arrêter aussi. D'accord. Le mythe de l'agriculteur.
D'accord. Mais alors
certains gagnent très bien leur vie.
Si tu veux.
Non mais pardon, je veux dis pas qu'ils ont pas de problème, mais faut. On va se calmer sur les. C'est des sujets très complexes. En plus, c'est des exploitations, c'est pas des salaires. Donc, c'est même pas comparable à du salariat.
Non, mais sauf que le fait est que.
Comme un artisan.
Le fait que cette économie, en l'occurrence, de la nourriture, non, mais d'accord, etc.,
et
donc, est déréglée.
Et réinjecter l'État, ça fera augmenter les salaires. Ça a marché, la preuve, en Russie, dans tous les pays, ça a marché.
Non, mais c'est pas ça. C'est que on voit bien aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus.
En France.
C'est déréglé.
En France.
Non, je pense que c'est un peu
pas
partout.
Que, pas c'est partout pareil. Pour le coup, en tout cas sur l'agriculture, c'est pareil.
C'est un peu partout. Mais c'est un problème européen d'ailleurs.
Nous, on s'en rend plus compte parce qu'on est historiquement une nation agraire, donc ça, on s'en rend bien compte, tu vois. J'imagine qu'aux États-Unis, où la question se pose même plus, où c'est que de l'agro-business et puis c'est tout. L'agriculteur, comme on le connaît en France, ils le connaissent pas aux États-Unis.
Absolument.
La question se pose pas. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est que, enfin bon, on va pas rentrer dans le débat sur l'agriculture,
non,
pas
non,
maintenant.
Je t'en prie, hein.
Mais c'est que si il y a un mythe de l'agriculteur, en fait. Il y a encore la grande majorité des petites exploitations agricoles qui, elles, ne survivent pas.
Absolument.
Parce qu'elles ont techniquement droit à des aides, etc. Sauf que les aides, elles sont attribuées, et c'est logique sur le papier, en fonction de la taille de
l'exploitation. Bah, évidemment.
Donc, in fine, ça profite aux géants de l'agro-business.
Enfin, les géants de l'agro... Alors,
mais
on va
si,
se calmer. En
si.
France, il n'y a pas de géants de l'agro-business en agriculture.
Non,
la plus grande exploitation, elle fait 60 hectares en France.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire.
Lactalis...
Donc, Lactalis...
Oui, mais Lactalis, c'est un acteur, c'est pas un producteur, déjà.
Oui, mais,
c'est un industriel, je veux dire.
Mais le problème est là. En fait, c'est la mise en concurrence
mais
qui a...
Mais une fois de plus, le marché marche. Pourquoi les consommateurs n'arrêtent pas d'acheter chez Lactalis?
Alors, c'est autre chose.
Moi, mon lait, j'achète. Qui est le patron? Ça coûte 2 euros. Les œufs, c'est pareil. Je mets le prix. Et je me pose pas de questions morales. À un moment, chacun est responsable aussi, tu vois.
Parce que nous, on peut se le permettre.
Voilà.
Il y a des familles.
Là, Lucas, tu parles à 10% des gens en France.
On a la chance de
gagner 1200 euros par mois d'aller acheter des œufs 30 centimes de plus. Ils achètent pas d'œufs. Ils achètent le moins cher.
Non, mais voilà.
Donc Lucas,
il
fonctionne puisque ça lui permet d'avoir des œufs pas chers.
Oui, mais elle fonctionne parce qu'il fonctionne à partir du moment où ça te touche pas. Et quand ça finit par toucher, comme les agriculteurs qui votent depuis 50 ans à droite, ils votent depuis 50 ans à droite, et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être fait une erreur. Ben oui, parce qu'au final, ça a fini par les rattraper.
Ils disent pas ça. Ils vont voter Rassemblement National, surtout.
Oui, parce qu'ils n'ont pas encore compris, mais ils finiront par comprendre où est la vraie erreur. Parce que là, ils pensent que c'est l'Europe, les pauvres. Mais ils finiront par se rendre compte d'où est l'erreur. Peut-être Caro aussi.
Non, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les ménages dont on fait partie, qui ont les moyens de se permettre d'aller acheter du circuit court, etc.
Ils le font déjà.
Mais non, c'est pas vrai. En fait, la vérité, c'est que tout le monde ne le fait pas.
Ah, et c'est ça le problème. Les agents économiques vont toujours au moins cher. Oui, parce que c'est humain.
Non, mais ça,
même un riche, il va.
Si on raisonne extrêmement froidement, je suis bien d'accord. Mais la vérité, c'est que là, il faut qu'on raisonne en termes, d'économie, behavioral economics. En fait, il faut qu'on arrête de réfléchir en économie keynésienne classique où les gens sont des agents.
L'économie stupide.
Logique. C'est pas ça. C'est que, en vérité, nous qui avons les moyens, par exemple, tous à peu près, j'imagine autour de cette table,
ça sauvera pas les agriculteurs.
Mais je dis pas que ça sauvera pas les agriculteurs, mais néanmoins, je pense que. Intellectuellement, ça change le paradigme et la façon dont les consommateurs vont agir. Voilà, c'est tout.
Donc les Français doivent être prêts à entendre, d'accord, on vous paiera plus, par contre vos œufs seront à 6 euros la barquette. Parce que en fait le français on lui a fait croire depuis 40 ans.
Le problème restera le même.
Sauf que c'est toujours la même question, c'est que si tu payes mieux les agriculteurs et que tu appliques ta vision à l'ensemble de la société, ce n'est plus un problème de payer 6 euros la
boîte. Mais ça marche en économie fermée, oui, ça marche plus aujourd'hui.
Ah mais d'accord, mais parce qu'aujourd'hui ça fonctionne. Parce
que les Français sont très contents d'acheter du Shine et du Primark. Ils sont ravis.
Est-ce que le système actuel fonctionne?
Non, mais il est moins pire que les autres.
Je suis pas sûr.
Est-ce que les Français sont prêts à entendre que vêtement, ça coûte 50 euros?
Mais s'ils sont
est-ce que même les pauvres Français sont prêts à entendre?
S'ils ont les moyens.
Mais vous savez très bien que même avec 3 000 euros, ils achèteraient quand même des trucs de pauvres. C'est ça que vous comprenez pas.
S'ils sont payés en conséquence, non seulement c'est un bienfait pour eux parce que ça sera des meilleurs produits,
mais
ça sera un bienfait pour toute la société.
Ouais, mais ça, c'est de l'humanisme en carton pâte.
Mais c'est pas
ça.
L'humanisme en carton pâte. Ben, en attendant, plus tu vas de l'autre sens. Mais c'est pas du communisme. Plus tu vas dans l'autre sens, plus tu signes avec le Mercosur, avec le Canada et avec l'Amérique du Nord, plus t'as des gens qui ne savent même plus vendre du bœuf en France.
Mais les Français sont quand même, en grande majorité, très contents d'acheter des bananes à 1,50€.
Jusqu'à temps.
Est-ce qu'ils sont prêts à entendre qu'une banane, ça coûte pas 5€?
Jusqu'à temps que ça leur arrive sous le nez.
Et
à un moment donné, ils se rendent compte que c'est peut-être pas le bon choix. Ouais. Et effectivement, là où t'as raison, c'est qu'ils votent Front National après. Ils n'ont pas compris la leçon, je pense.
Mais vous prêtez des objectifs aux gens. Moi, je vois les gens comme des agents économiques très tertiaires et très basiques et très cartésiens. Faut pas croire à la moraline dans les agents économiques. Les gens n'ont pas de la moraline.
C'est même pas de la moraline. C'est de la logique pure et dure.
Non, puis en France, on cherche toujours à injecter de la morale parce qu'on a une économie en carton-pâte quand même, il faut le dire. On est à poil.
Mais t'as remarqué qu'on n'a même pas parlé d'écologie, etc.
On n'en est même pas là.
On est juste au fait que peut-être qu'un agriculteur, il pourrait s'occuper de nourrir les gens à 50 km autour de lui, par exemple.
Mais ça, c'est un mythe. Ça marche pas comme ça, l'économie. Mais non, parce que pour nourrir la terre entière, on peut pas faire tous notre petit poulet chez les. Ça, c'est bien beau. Voilà. Ça, c'est Dion. C'est Cyril Dion.
Non, mais ça marche pareil en économie fermée. Tu vois, à partir du moment où t'exportes un porc, c'est foutu. Enfin, tu peux plus réfléchir.
Faut arrêter. Non, il faut que les agriculteurs produisent plus.
Il y a des modèles intermédiaires. Par exemple, si dis la cantine gratuite, tu dis t'es l'État.
Pas gratuite, payé par les autres.
Non, mais t'es l'État. Tu dis la cantine gratuite.
Mais je suis d'accord.
Non seulement, d'un côté, tu aides, tu fais du social. Mais je peux comprendre que ça te plaise pas et que ça plaise pas aux gens. Hein, pas de souci. Les gens voteraient pas pour la cantine gratuite aujourd'hui en France. Ils voudraient pas aider les pauvres.
Non, je pense sur la cantine, si, parce qu'il y a un truc social quand même.
Moi, je pense pas.
Mais c'est les mairies en plus.
Derrière, en fait, tu subventionnes, oui.
C'est le mot.
Les agriculteurs. C'est-à-dire que c'est tu fais en sorte que ton agriculteur dans ta ville, effectivement, il va nourrir les enfants à côté de
ouais, d'accord.
C'est déjà à l'essai dans certaines régions.
Oui, bien sûr.
Et ça fonctionne
mais c'est
très
trois
bien.
Fois plus cher.
Et ça fonctionne très bien.
Mais c'est trois fois plus
et est-ce
cher.
Que c'est pas la place de l'État de faire des choses comme ça?
Mais l'État peut pas être partout en fait. L'État.
Bah oui, mais non. Sauf que quand
marché.
Il est pas là, bah non, bah le marché ça marche
l'État,
pas.
Enfin, l'État, enfin,
oh, oui, mais à partir du moment où l'État te prend 20% sur tout ce que tu achètes, enfin, je veux dire, au bout d'un moment.
Moi, je préfère qu'ils me prennent que 5%, puis je me démerde sur les bananes, tu vois.
Ah bah, oui, et puis
c'est l'inverse. J'ai acheté des bananes françaises, Martinique.
Toi,
j'en ai acheté l'autre jour.
Toi, oui.
Oui, mais oui.
Toi, oui. Bah oui, c'est toujours la même question. Quand
laissez-moi dépenser.
Quand tout sera privé, on sera privé de tout, comme dit. Bon, on a un peu dérivé de la question du travail, mais c'est intéressant parce que ça c'est un peu the big picture. Hein.
Bah, oui,
c'est très
lié,
intéressant de comprendre la place de chacun et pourquoi ces dernières semaines, il y a aussi des souffrances qu'on n'avait pas entendues spécialement à ce point-là, qui sont revenues sur le devant de la scène avec cette question simple. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en France, être payé pour le travail qu'on fait à sa juste valeur et qu'on ne se rende pas compte que, la fameuse date de septembre-août, on arrête de travailler pour soi et on travaille peut-être pour les actionnaires ou peut-être pour l'entreprise. D'aucuns diront pour l'État, peut-être.
Pourquoi ? Parce que si tu as un livret en banque, en fait, c'est de l'argent pour toi. Hein.
Oui.
À chaque fois, vous oubliez cet argument.
Oui,
mais
encore une fois, ça ne concerne pas grand monde, malheureusement.
Ah, il faut que tu puisses pouvoir mettre de côté.
Malheureusement, c'est plus trop le cas.
C'est de la bourse,
on se retrouve dans un instant. On va essayer d'explorer un peu plus cette question avec le volet un peu familial.
Oh.
Parce que ça m'intéresse de savoir quel
travail,
est la...
famille.
Bah, oui, voilà, c'est ça.
on finira
avec une demi-heure sur la France. Non, on se retrouve tout de suite pour parler un peu de famille. On a fait une petite digression économique où on a pu, bien sûr, tous placer nos éléments de langage. Quel bonheur de vous retrouver dans cette conve de Vaut mieux rire qui est dédiée au travail. Et là, on va essayer de se détendre un peu. Parce que
Fénias.
Là, on était un petit peu en opposition. Mais là, on reprend pour parler de travail. Et en l'occurrence, désolé pour le fait qu'on accole ces deux mots-là, mais travail et famille. Quels sont les vases communicants et à quel point est-ce que vous accepteriez, c'est une question que j'adore, on va faire un petit tour de table, de travailler avec votre concubin ou votre concubine plus largement la personne qui partage votre vie.
No job in job.
Ah non, mais
moi.
Toi, c'est pour toi, c'est.
Ah, mais c'est clair.
Impossible.
C'est impossible.
Pourquoi?
Déjà, dans un sens, envisager un collègue de travail. Avant de... Voilà.
Ouais.
Ça, c'est non. Ça, c'est...
Ne serait-ce que désirer.
Non, vraiment, je trouve ça cauchemardesque. De rentrer le soir, se dire, on se parle de choses qu'on a vues ensemble. Alors, j'ai des amis qui sont mariés, qui travaillent à l'agence ensemble, voilà, et ça se passe très bien. Alors, ils ne travaillent pas dans les mêmes départements. Ça aide.
Oui.
Mais néanmoins...
Il est PDG, elle est dame pipi, tu sais.
Non.
C'est
non,
la belle histoire.
Non, on n'est pas là. Mais voilà, ça se passe très bien pour eux, et tant mieux. Mais en ce qui me concerne, jamais de la vie, Vraiment.
Ah ouais.
Je signe de mon sang.
Mike my word.
Je vraiment rentre, ça me déprime, ne serait-ce que même quelqu'un qui travaille dans le même secteur que moi. Vraiment, ça me dérange parce que j'ai pas envie de parler de ça quand je rentre le soir. Forcément,
ah, ça
tu
va
vas
jusque là.
J'ai pas envie de parler de ça. Voilà. Si j'ai envie de parler de mon job, c'est parce que ça, quelque chose m'a fait plaisir et que c'était sympa. Mais voilà. Mais je sincèrement, c'est quelque chose que je trouve compliqué.
Ah, je comprends. Qu'est-ce que tu en penses, Lou? Est-ce que tu te vois avec ton futur, ton futur mari ou ta future femme d'ailleurs? Ici, on n'est pas là-dedans. Est-ce que tu verrais que la personne qui partage ta vie comme on dit, genre bosser au même endroit ou est-ce que pour toi ça te donnerait un peu de l'urticaire?
Moi je suis plutôt d'accord, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu peux, il y a plus trop cette séparation entre le professionnel et la vie de famille. Tu rentres le soir, t'as vu ton conjoint toute la journée, vous reparlez du travail et enfin, en fait ça va forcément tourner autour de ça et ça met pas cette distance de chacun un peu de son côté, on se retrouve le soir ou
est-ce
voilà.
Est-ce qu'on peut pas se nourrir mutuellement? Tu vois, de
non mais en vrai, Attal et ses journées, ils faisaient quoi quand ils rentrent chez eux? Ils parlent de quoi?
Oui, parce qu'en fait,
à l'époque,
on précise que notre premier ministre, Monsieur Gabriel Attal, et le ministre des Affaires étrangères
européennes, ils étaient en couple pendant des années.
Stéphane Séjourné étaient ensemble.
Et donc ils ont bossé dans le même gouvernement, même le même cabinet, voilà.
C'est ça.
Et là, tu rentres chez toi. T'as la même gueule.
Alors après, quand t'es en politique, sincèrement, ta vie tourne tellement
bien sûr, déjà.
Bon,
ah, mais t'as besoin d'une séparation quand même à un moment, quoi. Dans ta journée, je veux dire.
Mais c'est bien mon point,
moi,
c'est ça.
Mais ma question, c'est est-ce que, en gros, que tu sois ministre ou que tu sois, comme dirait Philippe
Chardin. Tu sois Florent Pagny, quoi. Prenez ma femme au frigidaire.
Que tu sois. C'est le discours de Philippe Chardin. Que tu sois dame de ménage. Hein, que tu sois, you're a star.
Everybody's a star.
Non, mais que tu sois ministre. Ou que tu sois, ou que vous soyez tous les deux, je sais pas, prof, ou que vous soyez tous les deux caissières, hôtesse de caisse à Leclerc. Est-ce que dans tous les cas, si vous êtes tous les deux pareils, est-ce que vous parlez pas tout le temps de ça aussi? Tu vois ce que je veux dire?
Ah non.
Est-ce que c'est pas, mais je pense que si.
En vrai, je quitte le boulot. Je n'en parle plus jusqu'au lendemain.
Moi non plus.
Et c'est hors de question. Ou alors vraiment, si j'en parle, comme disait Caroline, c'est vraiment parce qu'il y a un petit truc qui m'a fait plaisir, tu vois. Mais moi,
t'en parles jamais avec la personne qui partage ta vie.
Pareil, parce qu'il y a un petit truc marrant qui m'arrivait ou un truc comme ça.
Jamais.
Tu vois.
Genre, t'as jamais
cassé le chiot.
Par exemple, si on commence à m'en parler plus de 10 minutes,
ça te saoule.
Je m'en fous.
Ouais, enfin,
le travail, c'est le travail. Ouais. On passe déjà assez de temps là-bas. Faisons autre chose.
Alors que tu vois, on parle famille, mais c'est pareil avec les amis. Moi, je suis très 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 proche de mes collègues de travail qui sont des amis aujourd'hui.
Ah ouais, tu vois ça, j'ai du mal par exemple.
Bah alors, ça c'est aussi pareil.
Non, mais c'est un vrai. Alors, ça par contre.
Non, mais c'est pareil. Moi, je suis dans un secteur où on est hyper, tu vois, tout le monde est potes.
Ouais,
machin,
on fait des boulots. Voilà.
Donc, il y a un peu de ça. Mais après, la vérité, c'est que moi, je me suis fait vraiment un groupe d'amis très très solide depuis le début de ma carrière. Donc voilà.
Avec Jacques Séguéla.
Il se trouve, c'est ça. il se trouve
Jacques
que
c'est pour pas dire le bord du bail.
Du Rolex, tu sais.
Il se trouve que ce sont vraiment des amis proches avec qui, bah voilà, on boit des coups, etc. Mais on se voit tout le temps, on ne parle pas boulot. Ou c'est à vrai. Peine, ou dans des comptes, enfin, dans, où on.
Genre, ah, Michel, il a une connerie.
Ouais, pour
jour,
bitcher un peu, genre, éventuellement, voilà. Tu vois. Pas, mais tu vas pas parler de travail.
Et on fait surtout, entre guillemets, on a la chance de faire des métiers, et donc d'avoir des vies qui font que notre boulot, c'est pas toute notre vie.
Mais c'est ça.
Et donc, on est quand même, entre guillemets.
Après, on l'a décidé, hein.
Bien sûr.
On l'a décidé.
Mais on est quand même en mesure de parler d'autres choses.
Oui, oui.
Parce
oui.
qu'on est grosso merdo dans un tiers sup, et qu'on peut parler sortie, musée, télé, voilà. Ciné, ouais. Voilà. Je suis pas certain que tous les gens, ou même les travaux manuels où tu vois du monde, mais que tu connais pas, je suis pas certain que les conversations, si ton mec ou ta meuf, elle est aussi plombière, que le soir tu parles d'autre chose en fait, parce que
je sais pas, c'est intéressant.
Je pense que c'est pareil. Je pense que à un moment, les gens partout, quel que soit le milieu dont tu fais partie, quand tu rentres le soir, il y a beaucoup de gens, je pense, qui considèrent, mais moi j'adore mon job, c'est pas la question, mais je considère quand même que c'est un travail, c'est
oui,
autre pareil. Chose.
Oui, c'est ça,
tu vois,
c'est pas la boîte c'est... à mon père, quoi.
Oui,
oui, c'est ça. Bah ouais, ouais.
Je sais qu'un jour, si j'ai un problème, mon patron va pas bien me sauver, quoi. Enfin, genre, non, mais
et puis et nous-mêmes, on ne sauve pas des vies par ailleurs, donc pourquoi ça te prendrait la tête quand tu rentres chez toi?
Oui, vous, non, ouais, moi.
Toi, tu distribues du bonheur, quoi.
Ouais, c'est ce que les gens me disent dans la rue. Mais entre ce que les gens te disent quand ils t'arrêtent et la vérité, tu sais.
Non, mais par contre, chez les profs, tweets, tu sais. Chez les profs, j'imagine trop, parce qu'il y a quand même pas mal
mais
de
oui,
profs qui sont ensemble.
C'est ce que j'allais dire. J'adore
ça. Endogamique, je crois que c'est un des métiers les plus endogamiques.
Mais en fait, moi, je me verrais pas en couple avec un autre prof, dans le sens où t'imagines.
Même Pef ou Elise Moon.
Non, mais dans le collège, t'imagines, t'as Monsieur Bidule et Madame Bidule.
Mais moi, sûr, j'ai eu Monsieur et Madame Mano.
J'ai eu ça.
On l'a tous eu.
Monsieur. Putain, comment il s'appelait, je sais plus. Mais les profs de techno. Les
moi, j'ai eu
techno.
Ça, Madame Trogneux, j'ai eu, moi.
Mais non, mais j'imagine trop qu'il bitch. Ah, les 5e B aujourd'hui.
Ah, mais ça doit être ça.
J'y ai pensé pendant la discussion. C'est-à-dire que moi aussi, je suis ami avec certains collègues et on a fait une raclette juste avant les vacances de Noël.
La phrase.
Peut-être les deux premières heures de la soirée, on a parlé boulot. Ah, on a parlé des gamins. Oui.
Mais non, mais alors attends.
Il y a un autre truc, c'est que.
C'est un métier passion aussi, pardon.
Oui, voilà.
Mais quand on se croise, c'est-à-dire que. On est dans la ruralité, ce qui fait qu'il y a beaucoup de profs qui sont sur plusieurs collèges. Donc, ils sont lundi matin dans un collège, le lundi après dans un autre collège, il y a un mercredi, j'adore. Etc. Donc, on se voit jamais.
Putain, ma France est territoire, quoi.
C'est-à-dire que c'est que dans ces moments-là, dans ces moments de convivialité, que ce soit le midi à la cantine ou quand on se fait des repas ou des apéros le soir, où on peut tous se retrouver et peut-être faire le point sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut se raconter. Parce qu'on va pas passer notre journée à s'envoyer des mails sur le petit Mathéo en 5e.
Mais moi, j'ai une vision des choses sur certains métiers, que ça soit le corps professoral.
Le corps professoral. Avec toi, tu es là.
Hey, man, hey, man.
Le corps professoral Michael Jones.
Il rend mieux sur ce micro-là, en fait. Je pensais que t'étais plus doué que nous, mais pas du tout. C'est
le micro.
Une question
c'est
technique.
Le matos.
C'est le matos, chérie, c'est le matos.
Matos, c'est un mot grec. Hein.
Oui. Matos.
Matos.
Que ça soit le corps professoral ou que ça soit notamment les médecins, moi, je pense qu'il y a certaines professions
évidemment.
Qui sont un peu en vase clos.
Mais évidemment.
Et sorti de ça, je suis désolé.
Le milieu de la nuit, c'est pareil.
Une petite généralité. Mais sorti de ça, en termes de curiosité sur le monde...
Ouais, je suis d'accord.
En termes de culture, etc.
True that.
Moins les profs, parce que vous avez, en l'occurrence, un peu plus de temps. Mais pour, par exemple, les médecins, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médecins, en dehors de leur énorme
mais parce que ces gens
connaissance,
par leur travail.
Connaissance pratique, ces gens-là n'ont rien à dire. Ils n'ont aucun avis sur rien. Ils ne connaissent absolument rien
sur
la...
Bon, là, tu fais des généralités.
Oui, oui.
Non, mais moi... Je t'assure que... Non, mais oui, mais au début, je pensais que... Je me suis dit, non, c'est pas possible, pas tous. Et beaucoup de ceux que j'ai pu avoir dans ma vie ont une connaissance extrêmement limitée de ce qui ne touche pas à leur profession, ce qui ne touche pas à leur savoir pratique. Et je vais aller plus loin, ils n'ont même pas la curiosité de savoir parce que de toute façon, ils ont vécu 12 ans.
Je pense qu'il y a un épuisement mental qui t'en empêche.
Ils n'ont pas eu le temps de se bâtir une curiosité.
Exactement. Je veux dire, les pompiers, machin, c'est pareil. Hein,
militaires.
Ça doit être pareil, je pense.
Mais ça, c'est un grand
problème. C'est un
grand problème. Bah, est-ce que ce n'est pas une grande perte aussi?
Alors, les médecins, je vais dire, moi, je vais revenir sur les médecins. Les auditeurs qui sont dans la santé vont nous allumer, mais ce n'est pas grave. Historiquement, les médecins faisaient ce qu'on appelle les humanités aussi en parallèle. Ouais. En général, c'est, historiquement, je vous parle d'un temps, ça fait au moins 60 ans.
Hein. Oui.
Faisaient donc des humanités à côté. Donc, au-delà, en plus des sciences, c'était des très très bons latinistes, c'était des très bons philosophes. Voilà. Donc ça malheureusement, ça a disparu. Et je pense que le fait que ça ait disparu, mais c'est normal parce que il y a de plus en plus de connaissances à emmagasiner. Il y a de plus en plus de gens
aujourd'hui,
à soigner.
Aujourd'hui, maintenant que t'as l'IA, en vrai. Tous ces métiers-là vont avoir besoin de beaucoup moins de connaissances brutes pour le médecin.
C'est ça. Est-ce que
donc ils auront à nouveau de la place en Rome, je veux dire, en stockage. Je sais pas, hein, parce que c'est tellement contraignant comme étude.
Est-ce qu'il faut retenir des choses ou savoir les retrouver?
Mais c'est ça la question. Et il faut les savoir les utiliser.
Parce que
un codeur, il a pas le code en tête.
Enseigner Pythagore, ok, mais est-ce qu'il faut leur faire apprendre par cœur Pythagore ou être capable de le trouver par eux-mêmes et quand ils en ont besoin?
Il faut faire les deux surtout.
Ah ouais,
tu vois
aussi. Hein.
Mais oui, enfin, c'est tout ça, c'est des outils justement. Mais ça va tout changer. Ça va tout changer sur le rapport au temps, et même au temps perso, sur la culture, etc. Un médecin dans 5 ans ou 10 ans aura certainement besoin de beaucoup moins de temps pour diagnostiquer. La question, c'est ce qu'on lui fera pas rattraper ce temps gagné avec des heures supplémentaires. Du coup, il serait encore plus baisé.
À mon avis, tu recevras plus de patients et puis basta. Hein.
Peut-être.
C'est tout ce qui va peut-être. Se passer.
Peut-être.
Hein.
Ah, peut-être. Numerus clausus.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est vraiment, c'est tous les mots de la France en même temps.
Non, mais effectivement, si t'as moins de temps de cerveau disponible pour apprendre des trucs par cœur, peut-être que t'auras plus de temps pour t'intéresser un peu à la vie extérieure. Après, sur ces métiers-là, métier de la nuit, médecine, pompier, militaire.
Ils y vont pas pour ça, hein, déjà, pour commencer.
Voilà.
Au départ, les gens, ils sont là pour soigner les gens, et puis
oui,
et ça
sûr.
Les bouffe. Donc,
et ils ne vivent que ça parce que c'est leur vie, quoi. Voilà.
Mais c'est intéressant. Et on va bientôt finir cette émission. Il reste quelques minutes. Après, on va se dire au revoir avec un dernier tour de table, puisque on va vous poser une question très importante.
Oula.
Quel est votre métier rêvé, genre le truc que vous aimeriez finir par faire? C'est-à-dire, genre, quand vous aurez...
Moi, j'ai une liste de ça.
Voilà. Oh. Moi, j'adore ce genre de questions. Genre, quand vous aurez 55 ans, 60 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Et je pense qu'on peut être très surpris par les réponses qui vont fleurir autour de la table. On se retrouve juste après ça, tout de suite. La Conve, Vaut mieux en rire, c'est tous les mercredis sur le podcast. Hein, c'est une exclusivité. Hein, exclusivité podcast, une heure de bonus en plus de votre hebdomadaire qui est diffusé toutes les semaines. c'est une particularité. Donc, c'est un vrai bonheur. Hein. Ça, c'est un vrai bonheur de le faire avec vous tous les mercredis. Je vous avais promis un petit tour de table. Il arrive, il est là. Avec cette question très importante. Où est-ce que vous vous voyez à 55-60 ans? Comment est-ce que vous voulez finir votre carrière professionnelle? Quel va être votre barreau d'honneur avant de partir en retraite? C'est un sujet qui m'intéresse énormément et je suis sûr qu'on peut avoir des surprises. Je vais commencer par Caro parce que je sens que là, you've got things to say.
Elle a ouvert sa note iPhone.
J'ai une note iPhone, dis-moi. Je ne mens pas, hein, qui existe. Hein, elle date de 31 décembre 2018, donc ça existe pour de vrai. Hein.
Alors, maître nageuse,
et ce qu'il faut savoir,
avant
c'est
Covid,
que,
quoi. Non,
vraiment, il faut savoir que chaque année, je regarde pour reprendre mes études dans plein de domaines différents.
Ah, j'adore.
Le droit, médecine. J'ai encore regardé il y a deux semaines comment faire pour reprendre médecine.
Enfin, Caroline, femme médecin, I would watch.
Oui.
Yeah. I would watch.
Donc, alors, publicitaire, vraiment, c'était un métier que je rêvais de faire. Donc
mais c'est dingue, genre, t'as toujours rêvé de ça.
Ouais.
Tu t'es toujours vu en pub, quoi.
Bah ouais, parce que j'ai toujours aimé ça.
Mais c'est marrant. T'as eu le déclic quand?
Ah bah, assez tôt, je saurais pas te dire précisément quand.
Est-ce que les conseillères d'orientation ont pu t'orienter?
Non, j'ai jamais parlé avec une conseillère d'orientation, frères, j'avoue. mais parce que, je sais pas, je trouvais ça drôle, j'ai toujours aimé la pub, les bons mots et tout, ça m'a toujours un peu travaillé.
Le fromage trop rigolo, celle-là.
On n'est pas des fous, là, mais elle était...
Qui est le génie? Bah, vous rigolez, mais...
C'est my life, quoi,
ça m'a bouleversé.
La purée mousse line, il y avait quelque chose. Donc voilà, publicitaire, c'était un truc que je voulais faire. Moi, critique culinaire aussi, j'aimerais
ça. Ça, c'est ma vie, ça. C'est ma vie.
Un peu bitchy, j'aime bien.
Écrire pour du stand-up. J'adorerais faire
pas
ça.
Mal, aussi. Non, moi aussi. Pas mal.
Toi, jouer ou
non,
auteur?
Non, je pense pas. Non,
par applaudissement dans la salle.
L'enfer.
Dans l'ombre. Hein. Non, dans l'ombre.
Auteur, ça me plairait bien. Scénariste, en général.
Réalisatrice. Tu scénarises ta vie, toi, en fait.
Mais c'est ça, mais moi, je suis...
Toi, tu fais un storyboard.
T'es l'actrice de ta propre vie, quoi.
Exactement. Chanteuse, ça m'aurait bien plu.
Je pense ça.
Productrice, ciné, télé ou musique.
T'es dans le pouvoir quand même, hein. T'es femme puissante, toi. Ouais.
Et chercheuse en cancérologie.
Oh
oui, rien.
C'est moins Rama, quand même.
Bah ouais, ouais.
C'est moins Rama. Ok, bah pas mal. J'aime bien. C'est très créa quand même. Hein. Très créa, c'est pas
très
mal.
Très créa, c'est vrai.
On va continuer avec Maxime. Faire un garçon de fille, un garçon de fille.
Moi, je pense le métier que j'arriverais de faire, mais je pense que c'est un peu tard, c'est vétérinaire.
Ah oui.
Mais je te vois tellement dans ça, toi.
Ah oui.
Moi, je pense que
c'est chienne, toi. C'est...
Ton âge,
Lucène. Bah, c'est ça,
quand j'ai dû choisir mes études, je pense que je me suis un peu réfréné à 18 ans.
Pourquoi?
Parce qu'il fallait partir loin, etc. Tu vois.
Oh.
Et je...
C'est trop tard, quoi.
Bah, on ne sait jamais trop tard, en vrai. Mais
non, vraiment.
Mais oui, il faudrait faire une sacrée formation, tu vois.
Bah, faut reprendre la prépa, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et ramasser des crottes aux autres bovales, ça pourrait combler le vide.
Non, mais vraiment, vétérinaire, c'est vraiment un truc qui.
C'est un beau métier, ça.
Non, c'est pas mal.
Mais après, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc.
Moi, j'en serais incapable.
Mais nous, si on aime ce que tu fais, Maxime.
C'est gentil.
Mais c'est vrai que c'est pas mal, vétérinaire. Mais il y a un côté. Moi, il y a un côté souffrance, moi. Ouais, je suis un peu. J'ai du mal avec, tu sais, genre s'il meurt et tout, quoi, bien sûr.
Bah oui.
Ah, ça,
j'y arriverai pas.
Je pense que c'est inévitable, bah, malheureusement. Oui.
Parce
que
personne n'est éternel. Corinne.
T'imagines, on serait combien sur cette putain de terre?
Déjà, combien de macronistes, putain, t'imagines?
Lou, où est-ce que tu te vois à 55-60 ans? Ce qui nous amène quand même à l'année 3200.
la ligne 16 sera pas encore ouverte. Hein. Fantastique. Hein.
Et Martine Aubry sera toujours à Lille, d'ailleurs. Maire de Lille. Dis-nous.
Eh bah, c'est compliqué parce que je sais déjà pas ce que je veux faire avant 50 ans, en fait. Donc,
Mais genre, où est-ce que tu te vois, quoi? Le truc qui te ferait kiffer, quoi.
Bah, pour le moment, je me projette déjà pour mes 30 ans, on va dire, parce que bon, là, je fais des études de com, donc forcément,
ans,
j'aimerais,
hein,
bien,
Caro.
J'aimerais bien finir dans la com.
Le bel âge.
Et après, en fait, ouais, je sais pas du tout. Mais ça va dépendre du lieu aussi. Par exemple, vous êtes déjà installé sur Paris, donc vous savez que, ou autour, donc vous savez que c'est à peu près le milieu dans lequel vous voulez habiter et travailler.
Oui, en vrai, moi, Paris m'a appelé par nécessité.
Mais moi, je sais pas.
C'est pareil. C'est pareil.
C'est-à-dire que je sais pas si je veux travailler là d'où je viens, où il y a 10 000 habitants, ou si je veux travailler en grande ville. Et ça joue aussi. Mais
c'est intéressant parce qu'elle résonne lieu de vie.
Loca.
Avant de métier.
Bah, évidemment.
Et ça, c'est génial.
Mais
parce que jamais
on a gagné,
les
gars.
Question comme ça.
Je veux coordonner les deux. En fait, j'ai envie d'avoir un travail qui me plaît. Mais je sais que là, je suis là pendant un mois. Ça fait déjà deux semaines que je suis là. Et j'adore Paris. J'aime bien le mode de vie extra, même si ça fait pas longtemps que j'y suis. Mais faut voir si je veux vivre là et travailler ici. Et au bout d'un moment, quand j'aurai 40 ans, si je travaille à Paris, bah, ça va peut-être me faire chier. Je voudrais aller ailleurs où il y a moins de monde.
Ça,
ça dépend de beaucoup de choses.
Même avant.
Oui, ça va se prendre très vite.
je pense pour savoir ce que où je me vois en fait dans 50 ans, il faut déjà que j'ai fait un petit bout du chemin voir jusqu'à 30 et
prends
40
la 13
ans,
à 8h, tu seras vite fixé.
Elle est intéressante cette
vision. Tu vas retourner à Lons-le-Saunier, tu vas te dire finalement le Jura.
Elle est intéressante cette vision parce qu'on a elle nous apporte cette vision géographique.
Mais oui,
qui est très nouvelle,
et ça
qui
joue
est
très beaucoup,
nouvelle,
je trouve.
Qui est très nouvelle. Une question complémentaire, est-ce que le parcours de quelqu'un comme Caro qui est aussi dans un petit peu dans la publicité, dans
la drogue, les ténèbres,
est-ce que quand t'entends son parcours et tu vois à quel point elle est investie aujourd'hui et à quel point elle a été, c'est une success story quand même, Caro. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire? Est-ce que tu te projettes un peu? Est-ce que tu te dis ouais, ça m'irait pas mal quand même dans 10 ans de faire ce que Caro fait?
Bah ouais, totalement. Surtout que t'as l'air de bien aimer ton métier quand même. Donc forcément, c'est aussi le but. Et puis ouais, c'est vrai que même le mode de vie, le travail, etc. Je trouve ça super bien. Mais c'est vrai que c'est ça. Est-ce que je me vois? Parce que la question c'était quand même dans 50, 60 ans. Mais est-ce que je me vois jusqu'à aller aussi loin, enfin jusqu'aussi tard dans ce métier, je sais pas, mais je suis sûre que je serai à peu près dans le même milieu quand j'aurai 25, après, 30.
L'intérêt dans ces milieux-là, c'est que avant d'arriver à 50 ans, on t'a déjà dit au revoir.
Oui, oui, non, mais moi encore terrible. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir si dans 2 ans, je ferai encore ça. Tu non, vois,
moi,
alors que j'adore.
Hein, c'est parce que je suis TDA, mais. Mais en c'est vrai, tous les deux jours, je me dis que je change pas de vie là.
Ouais, mais tu ferais quoi, toi, à 55 ou 60 ans?
Mais moi, c'est un vrai. Mais comme je suis. C'est comme mon amour, j'imagine tout de suite les trucs de ouf, tu vois. Je fais des plans sur la comète.
Mais t'as raison.
Et moi, ça peut être un restaurant. Alors, ou même une boîte de nuit. En bord de plage.
J'aurais adoré vers ça.
Un truc un peu bien, tu vois.
C'est vrai.
Ça me dérangerait absolument pas. En fait, tant qu'il y a des gens. Que j'ai, voilà, des gens agréables, tant qu'il y a du vrai social. Oui. Je pourrais pas faire du manuel ou du truc chez moi. Genre écrivain, j'adore écrire un bouquin.
Ouais.
Et il y a plein de gens qui me disent d'écrire un bouquin d'ailleurs, parce que je parle tellement que si je le mets en mots, ça va, tu vois. Mais c'est des
métiers. Ferme ta gueule.
Un conseil, ferme ta gueule.
C'est des métiers qui demandent tellement de discipline.
Et oui, un exercice
ultra solitaire,
comme
tu vois.
Dirait l'autre, t'es l'expert des exercices solitaires, donc ça devrait aller. Gauthier. Dis-nous tout, hors classe. Hors classe, non, c'est une vanne pour les profs.
Oui,
ça fera rire les profs.
En vrai, je me vois pas faire 20-30 ans prof près jusqu'à.
Mais tu sais qu'à 62 ans, tu seras plus prof.
Oui, mais peut-être qu'à 35, à 40, je ferai autre chose.
Incroyable.
Pour faire quoi? Après, moi, j'ai une passion des médias. Est-ce que j'ai envie de bosser dans les médias pour
└└►
C'est
ouais,
ça
ouais.
Une autre question. Mais après, il faut avoir les bonnes occasions.
Oui, c'est
et
ça.
Et j'ai pas forcément envie de refaire de la formation.
Ouais, bah c'est ça.
J'ai pas envie de m'en remettre dans.
C'est comme un risque.
Pour faire mon métier, t'as pas besoin de formation.
Oui,
bien sûr.
Non, mais quand on est à un certain niveau, tu vois, de poste, etc., enfin, tous les métiers que je vous ai cités, il faut quand même que je reparte un peu à zéro, plus ou moins. Et ça,
est-ce que tu peux te permettre de couper un an sans revenu, du coup?
Bon, attends, en France, t'es aidé, hein, faut arrêter.
Bah oui non hein. J'ai regardé, je te dis, je me suis renseignée pour voir.
Parce que nous on est censé avoir quand même avoir l'argent de côté, tu vois aussi.
Oui.
Quand t'es pauvre en France, tu veux changer de métier, tu peux le faire. Enfin, je veux dire, je le sais. Attends, j'ai fait une formation de voix off payée à 100% par l'AFDAS. Enfin, je veux dire,
le
je suis pas prioritaire au marché de l'emploi, tu vois. Et pourtant, on me l'a payé. Donc
le problème c'est pas d'être aidé. Le problème c'est la perte de pouvoir d'achat.
Ah mais bien sûr. Mais la vie c'est des risques en fait, hein, tu vois.
Mais quand t'as un train de vie particulier, enfin, faut quand même être capable de dire.
Le plus grand danger de l'épanouissement professionnel, c'est le confort.
Mais bien sûr.
C'est comme en amour d'ailleurs.
Des visions très intéressantes et
ça
très variées.
Le
débat en fait.
Du revenu universel dans ce cas-là.
Ah, je suis pour. Tu vois?
Mais on a eu 5 réponses qui étaient différentes. Donc c'est ça qui est intéressant. On avait des visions assez opposées. Un bar, c'est pas mal. Un resto, c'est cool aussi.
J'ai l'impression d'être le stock mail de droite qu'ils invitent dans ce soir. En général, t'en as un qui est là qui se fait matraquer la gueule par leur Adler.
C'est le contraire de ces news.
Oui.
Mais moi, si ça, moi si la réponse vous intéresse de ma part.
Non,
pas tant, puisque tu poses la question.
Quoi, non, on est d'accord. Hein.
Je sais. Non, mais pour changer de travail, il faudrait.
Faudra avoir.
Oups. Non, mais moi, en fait, moi, c'est, je suis une escroquerie parce que j'ai eu la chance de faire des jolies études de. Alors, on dirait pas, hein, mais de sciences politiques quand même.
Non, mais comme quoi. Non, mais Jean Messia fait l'ENA, Wissem.
Oui, mais. Oui. Ça, en tout cas, tu sais bien valoriser les
bon, ça peut te rassurer.
Oui.
Tu vois
non, mais et puis, au final, je me suis rendu compte que. Je faisais d'autres choses qui me plaisaient plus. Donc j'ai eu la chance de m'amuser beaucoup et de prendre du temps pour m'amuser et de faire des choses qui m'amusent.
Mitterrand, quand il a bossé pour Vichy.
Oh là là.
Et puis, ce qui est génial, et pour le coup, je peux rebondir sur ce que tu dis, Gauthier, c'est qu'il y a des vraies possibilités, quand tu as des passions parallèles, de les transformer
en de
vraies opportunités.
Plus que jamais.
Et je peux en parler. Ça arrive vraiment des moments où t'as pas du tout le profil. T'es pas du tout, il peut y en avoir 50 à côté qui ont fait, du marketing. Et au final, toi, t'as jamais fait de marketing et t'arrives avec une autre proposition différente.
Voilà, vraiment un fidèle turner.
Mais
le matin, vous vous levez pour bosser. T'as un rêve, tu t'y accroches.
Mais
me lance pas dessus. Hein. Moi, je suis dans ce secteur-là. C'est les gens qui ont du talent qui percent. C'est pas les gens qui ont fait les bonnes études.
Oui, c'est ça. Donc, honnêtement, ça arrive tellement souvent. Et c'est tellement ces profils-là aussi qui sont recherchés. J'ai l'impression qu'il y a une vision qui est différente quand on est, pour le coup, quand on sort de la boîte, comme on dit. Mais c'est pas assez. Out of the box, ça se travaille. Ça se travaille beaucoup. Et moi, je me vois à 55-60 ans, soit élu. J'adorerais être élu.
Mes parents sont persuadés que je vais finir.
Mais t'es déjà l'élu de mon cœur.
Oh. À quel niveau local, national?
Non, élu local.
Bah oui. Alors, le vieux roublard.
Là où on change les choses pour de vrai.
En dîner des vieux pour taxer le foie gras. Là.
Élu local pour faire.
À l'organisation de la kermesse.
Oui. J'adore. Et pour parler.
Au vœu du maire.
Tu sais, la main sur l'épaule et tout.
La galette.
Ça, c'est ma vie.
Avec les titres de presse locale. Pour ça, dîner, c'est bien passé.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir attendre un peu, 20, 30 ans que la France soit vraiment islamisée.
Fais ton travail. Vas-y, Rachida, travaille.
J'ai rien à faire, moi. Moi, j'ai juste à attendre. Parce que tu sais ce qui va me donner raison? La démographie.
L'enfer de cet argument.
Tu sais ce qui va me porter au pouvoir? La démographie, monsieur. Quelle horreur. Tu sais, le mec, il devient le livre de Welbeck.
C'est drôle.
Très bon livre au demeurant, au-delà de la théorie, ça reste un très grand écrivain.
Blague à part, malheureusement, c'est encore un peu compliqué, hein, même si t'as beau prouver comme tu veux que. Oh. Si, c'est compliqué.
Si, en municipal?
Bien sûr, en municipal. Bah oui, parce qu'on va toujours t'accuser d'avoir eu un vote communautaire, évidemment.
Oui, mais c'est des listes.
Les gens issus de l'immigration un peu différents qui sont élus en France, c'est que les gens.
Alors, paradoxalement, je trouve que les accusations de communautarisme en électorat, on accuse plus souvent des blancs, en gros. D'être communautaire plutôt que des candidats rebeux.
Non mais oui, sauf que à Tourcoing, Roubaix, etc., quand ils sont élus, le premier argument c'est de dire qu'ils ont fait voter les quartiers. On part pas du principe que éventuellement ils auraient pu être élus parce que c'était les meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est un peu ça, malheureusement. Mais bon, blague à part et sans être aussi sérieux, être élu local, je kifferais. Mais même pas pour la. C'est même pas une question de thune.
Ça t'irait bien.
C'est une question de. Tu vois, j'aime bien l'idée. Et effectivement, ouvrir un bar, mais pas genre pour être gérant, je sais pas quoi. J'ai pas du tout. Une aspiration de pouvoir ou de posséder absolument.
C'est juste pour dire avec ceci quoi.
Avec ceci.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Et c'est juste pour genre faire une caricature. Une caricature avec la serviette sur l'épaule. Et évidemment avoir des habitués. Bah oui. Vous êtes là, nana.
Et moi, c'est Jeannot. Et moi, Jeannot, il est venu.
C'est exactement ça.
Et peut-être, si jamais ça se passe mal, avoir le chef Estebes.
Bonjour, chef. Alors, Wissem. C'est vous, Wissem? Bonjour, chef.
Ça va?
Oui, ça va.
Post to go.
To go to go, vous le préparez quand, Wissem? Je pourrais rendre à tous ceux qui m'ont donné un to go to go depuis des années. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble, les amis.
Une heure déjà.
Et tu sais, la discussion, ça m'a rappelé le cours de philo en terminale sur le travail, où en gros, c'était on travaille pour ne plus travailler. La journée pour le soir, la semaine pour le week-end, l'année pour l'été, la carrière pour la retraite.
C'est fantastique.
Et c'est le plus grand progrès de l'humanité.
Et un flash de ma prof de philo, Madame Morandini.
Oh là
2008.
Grand direct de la philo avec Bertrand Chamerois.
Pas de remarque. Hein,
Oh, j'ai pas besoin d'une remarque, j'ai une décision de justice. Hein, là, pour le coup, je prends pas de risque de diffamation.
Pas de remarque, signé le tribunal de Nanterre. Non, c'était un plaisir de vous avoir, évidemment,
dans
cette conve de Vaut mieux en rire qui était un peu plus sérieuse que la semaine dernière, où on était un peu genre en mode accouchage. Là, on a plus échangé des grandes idées, mais ça nous a permis d'en.
Vaut mieux en rire de point les grandes idées.
Oui, c'est ça. Ça nous a permis d'en connaître un petit peu plus sur vous tous. On vous retrouve en partie ce week-end pour le nouvel épisode de Vaut mieux en rire. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode spécial dans la conf de Vaut mieux en rire. Merci d'avoir été avec nous à tous.
Merci. Merci.
Et
à
très bientôt. Belle semaine, belle fin de semaine à vous.
La conf de Vaut mieux en rire.